Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue du grain à moudre d'été. Ce soir, les Balkans sont-ils encore la poudrière de l'Europe ? C'est une région particulièrement complexe, parcourue de tensions, voire de rancœurs et de haines recuites, théâtre aussi des derniers massacres du XXe siècle en Europe. Les Balkans occidentaux pour être précis, l'une des parties les plus inflammables de l'Europe. Partant, tout mouvement de foule, toute nouvelle crise politique, sociale, nationale ou internationale dans la région est source d'inquiétude. C'est le cas depuis plusieurs mois maintenant, des manifestations en Serbie, au Monténégro, au Kosovo pour protester contre la corruption ou l'autoritarisme du pouvoir. Rassemblement aussi en Albanie, pays secoué par une grave crise politique. L'opposition a boycotté les dernières élections municipales fin juin, elle qui refuse par ailleurs de siéger au Parlement. De plus en plus de remous donc, qui font peur et qui ne plaident pas en faveur de ces pays, eux qui veulent entrer dans l'Union européenne. Les négociations n'ont toujours pas commencé avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Paris, Berlin et Amsterdam s'y opposent. Mais les discussions ne sont pas pour autant rompues. C'est ce qu'a dit Angela Merkel le week-end dernier en Pologne lors d'un sommet avec ses pays à la fois fragiles et bouillants, d'où cette question : les Balkans sont-ils encore la poudrière de l'Europe ? Pour y répondre, trois invités : Jean-Arnaud Desreins, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du Courrier des Balkans, auteur de « Là où se mêlent les eaux des Balkans au Caucase dans l'Europe des confins », livre publié par La Découverte, livre récompensé hein, par ailleurs cette année par le prix Louis Castex. Vous êtes en duplex de Quimper avec nous en studio, Odile Perrault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé au Centre Montesquieu, centre de recherche politique de l'Université de Bordeaux. Vous êtes par ailleurs consul honoraire du Kosovo, pays que vous connaissez donc particulièrement bien. Face à vous, Sébastien Gricourt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès, auteur de Kosovo, récit sur la construction d'un État. C'est publié par les éditions Non-Lieu. Pour commencer, parlons de la situation actuelle évoquée dans le texte d'introduction, situation dans les six pays auxquels nous nous intéressons ce soir. Je vais les énumérer. Bosnie, Serbie, Kosovo, Albanie, Monténégro et Macédoine du Nord. Ce nom, c'est officiel hein, depuis février dernier. Des pays traversés, je le disais, ces derniers mois, ces dernières semaine par des mouvements de contestation, à tel point, Jean-Arnaud Desreins, et je commence par vous, que vous avez parlé d'un possible printemps des Balkans. C'était dans un article publié au mois de mars, si je ne me trompe pas. Que se passe-t-il actuellement dans cette région de l'Europe ?
On vit une situation assez paradoxale en réalité depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les dirigeants de tous les pays de la région se disent théoriquement pro-européens, mais dire cela suffit pour qu'ils obtiennent une sorte de chèque en blanc permanent de la part des dirigeants de l'Europe elle-même, puisque dans le même temps, ces dirigeants, le Serbe Aleksandar Vučić, le Monténégrin Milo Đukanović, l'Albanais Edi Rama ou le Kosovar Hashim Thaçi, dirigent leur pays de manière de plus en plus autoritaire, attaquant les libertés fondamentales, les droits de la presse, des médias, plaçant sous contrôle la justice, organisant des systèmes tout à fait complexes et très efficaces de corruption et de clientélisme. Et cela, apparemment, ne gêne pas tellement les dirigeants européens qui se contentent en réalité d'avoir dans les Balkans une politique qui se réduit à une stabilité définie à minima pourvu qu'il n'y ait pas de nouveaux conflits. Donc si vous avez des dirigeants autoritaires et corrompus qui se prétendent pro-européens, tout le monde fait comme si tout allait bien. Bien évidemment, ceux qui ne trouvent pas leur compte dans cette situation-là, ce sont les populations qui font deux choses, qui manifestent. Il y a eu des manifestations très importantes, par exemple, dès 2014 en Bosnie-Herzégovine. Et puis, tout cet hiver, tout ce printemps, il y a aussi eu des manifestations très puissantes en Serbie et au Monténégro. Bien évidemment, des manifestations qui n'ont pas débouché sur les changements que les gens espéraient. Et ce que font donc les citoyens de tous les pays de la région, c'est qu'ils prennent la route, ils s'en vont, ils quittent les Balkans pour les pays de l'Union européenne ou même pour des destinations plus lointaines comme l'Amérique ou ailleurs encore. Et aujourd'hui, tous les pays des Balkans sont en train de se vider de leurs forces vives, des jeunes diplômés, mais pas seulement, ce sont désormais des familles entières qui partent. Et puis tous les gens qui ont des compétences techniques, ça va des cuisiniers aux électriciens, en passant par les plombiers, en sachant que certains pays de l'Union, comme l'Allemagne, ont d'énormes besoins de main-d'œuvre. Dans ces conditions-là, les Balkans sont en train de vivre une tragédie encore inédite, celle de pays en train de se vider en temps de paix. Et pour le coup, le dernier paradoxe, c'est que cette situation-là, au bout du compte, ne déplaît pas tellement à ces oligarques qui dirigent ces pays-là, puisque les gens qui s'en vont sont ceux qui pourraient être les premiers à contester leur pouvoir ou à manifester contre eux. Donc au bout du compte, encore une fois, tout va très bien en apparence, pour peu que cette stabilité de façade soit maintenue et... dernière pièce du puzzle, ces dirigeants oligarchiques deviennent indispensables pour maintenir cette apparence de stabilité. Le dernier exemple assez flagrant, c'est celui de l'Albanie. On a quand même vu un scrutin boycotté par l'opposition, qui boycotte d'ailleurs depuis un scrutin local, municipal, boycotté par l'opposition, qui boycotte par ailleurs depuis plusieurs mois le Parlement, un scrutin marqué par d'innombrables violences, irrégularités, enfin quelque chose qui s'est passé en dehors de toutes les règles communément admises, mais personne dans l'Union européenne n'a rien dit. On peut quand même se demander pourquoi la démocratie serait plus importante au Venezuela qu'en Albanie, c'est-à-dire sur les frontières de l'Union européenne. Il y a là quelque chose qui intellectuellement ne va pas, ne tient pas.
Propos liminaire très riche, le cadre est posé. On va parler de l'Europe dans un deuxième temps dans cette émission. C'est aussi l'un des sujets au cœur de la question posée ce soir. Sébastien Gricourt, vous voulez compléter ce que vient de dire Jean?
Oui, je voulais compléter et peut-être rebondir. C'est vrai que lorsque l'on voit par exemple aujourd'hui en Albanie, la ville de Shkodra qui est au nord de l'Albanie, sa maire demande à se fait la comparaison de son pays avec la situation de sa ville à la veille de la Première Guerre mondiale et à la sortie de la Première Guerre mondiale, donc au moment du traité de Versailles, où cette ville de Shkodra était sous protectorat international. Et elle demande que ce pays de l'Albanie soit sous protectorat international. Derrière tout cela, je regrette, il y a aussi un jeu de l'opposition qui est plutôt malsain, car en réalité, ce qui se passe, et on parlera peut-être plus tard de la crise, on peut en parler maintenant de cette crise politique en Albanie, c'est aussi le succès des réformes dans le domaine de la justice et de l'état de droit. Puisqu'en fait, ça fait 3 ans que les juges, les magistrats des cours constitutionnels, cours suprêmes, tous les juges sont actuellement passés sous un examen approfondi de l'origine de leur richesse. Or, à l'origine de la crise politique, c'est quand en février, certains politiques au pouvoir ont voulu faire passer une résolution pour que aussi les politiciens passent à travers ce screening, cette sélection, cet examen. Or, c'est là qu'il y a eu opposition. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y a que dans l'opposition que les gens sont opposés à cet examen de l'origine de leur richesse. Il peut y en avoir, bien entendu, au sein de la majorité actuelle. Or, le boycott et les manifestations massives ont commencé à ce moment-là. La réalité, c'est qu'elles n'ont jamais prise au sein de la population. Que si les élections, le 30 juin, ont été peu suivies, je crois que c'est pas à peine 23%, et que sur les 61 municipalités, il y a 31 municipalités où il n'y a pas eu d'opposition. Mais il y a aussi de la pression sur la population, de la part de l'opposition, pour ne pas participer. Donc les choses sont plus compliquées que cela. Et on a par exemple aussi un président en Albanie qui a voulu décréter que les élections allaient être annulées, puis a décidé par un autre décret qu'elle serait reportée en octobre. Donc du coup l'Assemblée a réagi en sortant une résolution pour rendre caduque ce décret. Or hier a été voté à la majorité, 101 sur 140 députés, parce que la plupart des députés de l'opposition qui sont partis ont été remplacés. Donc en réalité, on est en train d'aller vers une crise politique où c'est le président lui-même qui a voulu jouer avec le feu, avec l'opposition, et qui risque d'être démis de ses fonctions quand la Cour constitutionnelle aura tous ses magistrats en fonction d'ici 3 mois, 4 mois.
Voilà pour l'Albanie. Odile Perrault, vous, je le disais, vous êtes consul honoraire du Kosovo, c'est un pays que vous connaissez bien. C'est l'un aussi des pays autour duquel se cristallisent beaucoup de problèmes dans cette région, notamment, principalement, à cause de ses relations avec la Serbie, qui refuse, comme d'autres pays, de reconnaître l'existence officielle du Kosovo.
Alors là, en effet, alors peut-être juste pour reposer le cadre, déjà pour ce qui concerne l'Albanie, si vous
oui,
permettez, que je ne sois pas exclusivement pour le Kosovo, il est peut-être intéressant pour que les auditeurs comprennent de prendre un petit peu de perspective. Et finalement, il est vrai que le souci de l'Albanie, c'est également la polarisation de la vie politique. Et ça fait des années que les élections, en fait, se passent de manière chaotique, mais tout en respectant évidemment partiellement les règles demandées par les différentes organisations internationales. Et à chaque fois, quel que soit le parti qui l'emporte, il y a contestation, il y a boycott des travaux du Parlement et il y a diverses mesures qui empêchent parfois justement que les réformes soient faites. Donc il y a aussi, pour essayer d'éviter, disons, toute remarque plus ou moins partisane, il faut en effet parfois arriver à prendre la distance sur la longueur. Pour ce qui est du Kosovo, le cas est assez complexe si on aborde le problème de la reconnaissance, mais c'est c'est sûr que entre le Kosovo et la Serbie, c'est un des gros points, une des grandes pommes de discorde qui existe encore dans les Balkans et dont l'Union européenne s'est saisie assez rapidement. Vous l'avez dit, on le verra en deuxième partie, mais surtout à travers le fameux dialogue Kosovo-Serbie qui a ouvert en 2011.
On a vu, et ce que disait Jean-Arnaud Derrins nous l'a appris, ces pays des Balkans souffrent de plusieurs maux, autoritarisme, corruption, état de droit. Quel est le pays où la situation vous semble la plus critique, Sébastien Gricourt?
Je crois que c'est sans doute la Bosnie qui est qui est un état dysfonctionnel total depuis donc les accords de Dayton en décembre 95. On va quand même arriver à la fin de l'année prochaine aux 25 ans des accords de Dayton avec un pays qui est aujourd'hui carrément dirigé, ça l'a toujours été, mais là je crois qu'on arrive un peu au summum des trois principaux partis nationalistes, des trois principales communautés.
Il faut rappeler que le pays est divisé
en fédération croato-bosniaque et effectivement la Republika Srpska.
La République serbe de Bosnie.
Voilà, qui a été reconnue comme telle dans l'accord de Dayton. C'est pour ça qu'il est difficile quand le leader bosniaque veut changer le nom de la Republika Srpska. Le problème, c'est que c'est un nom officiel qui appartient aux accords de Dayton, qui est censé être une constitution provisoire. Ce que l'on peut regretter, c'est que finalement, il n'y ait aucun effort ou aucune volonté, ou je ne sais pas, peut-être qu'ils ne savent pas comment faire, de l'Union européenne pour essayer de changer cela. Je pense qu'on arrive à un quart de siècle de cette situation bloquée. C'est le moment d'essayer de sortir de ce cadre. Or, on a effectivement une confrontation entre les trois principaux partis, des trois principales ethnies, avec leur réseau clientéliste, et qui bloque totalement tout progrès. On a aussi des Croates qui voudraient finalement se défaire de cette fédération interne bosno-croate, mais en même temps on a les Bosniaques et les Croates de la Bosnie qui sont pour l'adhésion à l'OTAN quand le Dodik qui dirige la Republika Srpska, lui, est contre l'adhésion à l'OTAN. Donc tout cela bloque et encore une fois on parlera peut-être plus tard de l'implication des acteurs extérieurs dans la région.
De l'Europe.
Qui compliquer les choses. Extérieurs à l'Europe.
En effet, de l'Europe et des autres, parce qu'il y a eu une tentative de réformer en effet les accords de Dayton, ces fameux accords qu'il faudrait en effet réviser, parce que le souci c'est que la Bosnie est dans une impasse institutionnelle avec une très grande dispersion des pouvoirs. Tout est multiplié par deux en quelque sorte entre les deux entités, cour constitutionnelle et puis après vous, cour constitutionnelle, parlement, assemblée, etc. Et ensuite vous avez un autre niveau au niveau de l'État central qui lui est particulièrement faible et a très peu de pouvoir. Et puis on peut entre guillemets rajouter une couche avec les institutions internationales qui, quoi qu'elles aient, enfin la présence internationale qui a un peu moins de pouvoir qu'il y a quelques années, mais vous avez toujours un haut représentant et un représentant spécial pour l'Union européenne. Donc tout ça complexifie également les possibilités de prendre des décisions et même la vision pour les citoyens. D'ailleurs, Jean-Arnaud Derrins mentionnait en effet les mobilisations citoyennes en Bosnie qui ont été très très importantes et qui ont toujours lieu. Hein. Et il y avait un autre chercheur qui avait parlé de la mentalité, si je me souviens bien, Zvitsuitsi, parlant de tous les mêmes, en fait, si je le prononce correctement. Et le souci, et ça explique peut-être aussi cette montée des autocrates dans la région, que l'on peut constater dans d'autres pays d'Europe, c'est le désenchantement de la population vis-à-vis des classes politiques, tout parti confondu.
Vous parliez de Dayton, je propose qu'on s'y arrête quelques instants. Résultat donc de négociations menées en 95 à Dayton, aux États-Unis, discussion difficile. Vous allez les entendre menées par Slobodan Milosevic, c'était pour les Serbes, Haris Silajdzic pour les Bosniaques et par Warren Christopher pour les Américains, compilation réalisée par Thomas Jost.
Nous ne pouvons pas survivre à la mort. Nous ne pouvons pas survivre aux 17 000 enfants morts en Bosnie. Mais nous pouvons obtenir plus de justice et la justice signifie un état fonctionnel pour la Bosnie. Intégrité, souveraineté, justice et démocratie. Merci. Je suis optimiste. Je crois que les discussions vont aboutir. Nous attachons beaucoup d'importance à l'initiative de paix des États-Unis. Au nom du président Clinton, je vous souhaite la bienvenue à ces négociations historiques. Si nous échouons, la guerre continuera et les générations futures nous en tiendront sûrement responsables. Je suis heureux de vous annoncer que les différentes parties en Bosnie ont trouvé un cessez-le-feu pour mettre fin au combat.
Et Bill Clinton, donc pour terminer, heureux d'annoncer la signature d'un accord à Dayton en décembre 1995. Jean-Arnaud Derrins, est-ce que c'est cet accord qui est à l'origine de la situation actuelle en Bosnie-Herzégovine ?
Bien sûr, bien sûr. Et je dirais même que c'est un petit peu le modèle dont souffre toute la région en réalité. Alors, une chose importante, les accords de Dayton ont eu le grand mérite de mettre un terme à la guerre, ça c'est certain. Après, les accords de Dayton, c'est tout simplement une machine infernale. Une machine infernale qui a créé un pays structurellement dysfonctionnel, et surtout, on a confié les clés de cette machine infernale à ceux qui avaient tout intérêt à ce qu'elle reste en place, à ce que rien ne change, à savoir les trois partis nationalistes, serbes, bosniaques et croates. Dans ces conditions-là, depuis 20 ans, bientôt 25, on parle en permanence de réformer les accords de Dayton, mais c'est totalement impossible. On ne peut pas réformer les accords de Dayton, on ne peut que les casser, qu'en sortir, ou bien on restera dans ce statu quo, parce que ces partis nationalistes ont tout intérêt à ce que se maintienne le statu quo. La Bosnie-Herzégovine est un pays très particulier. Il y a donc deux entités, 10 cantons dans la fédération, un territoire autonome à Brčko, un état central. Au bout du compte, vous avez 13 ministères de l'éducation, de la culture, de l'économie. Vous avez donc en tout, je crois, quelque chose comme 200 ministres et plusieurs milliers de députés. Ajoutez à cela les chauffeurs, les secrétaires de ministres et de députés, vous avez un petit pourcentage, mais qui est très significatif de la population qui vit directement de ce système politique monopolisé par des partis nationalistes qui ont donc là une base clientéliste qui leur permet de garantir cette stabilité de façade du pays. C'est ce que l'on voulait pour arrêter la guerre, mais ce modèle d'une stabilité à tout prix montre ici, je dirais, c'est un cas extrême la Bosnie, mais montre ses limites. Et en réalité, ce modèle de stabilité de façade a été appliqué aux autres pays. Parce que en Bosnie-Herzégovine, vous avez les partis qui ont fait la guerre, qui sont aujourd'hui toujours au pouvoir, mais la situation n'est pas bien différente dans les autres pays de la région. Prenez, encore une fois, le président serbe Aleksandar Vučić. C'est quelqu'un qui, il y a 20 ans, disait que pour un serbe tué, il fallait tuer 100 musulmans. Mmh. C'est cet homme-là que le président français Macron va aller rencontrer dans une semaine à Belgrade pour saluer ce grand européen que serait le président Vučić.
Ancien ministre de Milošević, Aleksandar Vučić.
Oui, c'est un héritier politique direct de Milošević et encore plus directement du leader de l'extrême droite radicale, Vojislav Šešelj. Mais c'est juste un type qui a bien compris que pour rester au pouvoir, il lui fallait donner des gages de façade très légers aux Européens, tenir les éléments de langage que l'on attend de lui, et ensuite personne n'ira lui chercher des poux sur la tête. Prenez le cas du Kosovo, où vous avez un président de la République, là encore, Hashim Thaçi, qui est tout de même, qui a sur la tête l'épée de Damoclès d'une possible inculpation pour crime de guerre par la nouvelle cour spécialisée qui est entrée en fonction et qui doit bientôt délivrer ses premières inculpations à La Haye. Sur quoi repose cette paix illusoire des Balkans? On a donné le pouvoir aux bad guys en pensant que le processus d'intégration, de développement transformerait ces petits brigandos locaux en partenaires respectables. Or, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis la fin des guerres, depuis 20 ans? Le développement économique n'est jamais venu. La perspective d'intégration européenne, elle s'est perdue dans les sables mouvants des politiques européennes et de la crise mondiale. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qui reste? Mais rien du tout, aucune perspective de changement, aucun espoir pour les populations. Par contre, ceux qui sont au pouvoir, bien sûr, s'y accrochent de toutes leurs mains, de toutes leurs griffes.
Pays illusoire des Balkans, dit Jean-Arnaud Derain, c'est ce que ça veut dire, Sébastien Gricourt, que la page des guerres des années 90 n'a véritablement pas été tournée encore aujourd'hui.
Non, je pense que les guerres en tant que telles sont achevées et sont loin derrière.
Les conséquences, en tout cas, la manière dont on est sorti de ces guerres.
Voilà, je pense que la manière dont on est sorti de ces guerres fait que nous sommes encore dans les crises que Jean-Arnaud a très bien décrites, et je souscris à son analyse. Je dirais que le problème, c'est que finalement, à la sortie de ces guerres, le système a voulu, et je parle de la Commission européenne, de la Banque mondiale, du FMI, ont voulu appliquer ce qu'on appelle le consensus de Washington, c'est-à-dire qu'ils ont voulu appliquer des recettes qui étaient valables ou qu'ils ont pensé valables en Europe centrale et en Europe centrale et orientale. Or, on avait affaire à des pays qui sortaient de crises profondes, d'une dictature profonde en Albanie, d'une dislocation meurtrière en ex-Yougoslavie, des identités qui n'étaient pas encore assumées.
Ce que dit Jean-Arnaud Derain aussi, c'est que le problème vient du personnel politique, des personnes qui sont au pouvoir encore aujourd'hui.
On va y arriver. C'est vrai que au fur et à mesure que l'agenda de soi-disant de la convergence économique, de la convergence vers les critères et démocratiques, c'est fini par se déliter au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à partir de la crise 2008-2009, on a senti que finalement la croissance était plutôt fragile. Aujourd'hui, la Banque mondiale dit que pour arriver à rejoindre le PIB moyen de l'Union européenne, il faudrait 6 décennies pour toute la région. Donc il faudrait une croissance de 5 à 6%, ce qui n'est pas possible. Aujourd'hui, elle est d'environ 3%. On a un chômage massif des jeunes. Et il est vrai que tout cela sied parfaitement à certains leaders qui se contentent d'un certain nombre de messes, comme celle de la semaine dernière que vous avez nommée en Pologne, où finalement ils peuvent se retrouver, se montrer comme des leaders. Mais la réalité, c'est que ça ne correspond
pas. Ce sommet entre les pays des Balkans occidentaux, donc la France, l'Allemagne...
En fait, c'est le sommet de ce qu'on appelle le processus de Berlin qui a été lancé en 2014, qui est parallèle en fait au processus d'élargissement, où chacun des pays européens qui en prend le lead de la présidence met un peu ce qu'il veut dans l'agenda. Donc en fait, c'est pas vraiment coordonné, parce que la Pologne n'a pas parlé d'état de droit, évidemment, dans les Balkans, ce qui aurait pu être le cas d'autres pays avant. Mais c'est un processus qui permet de faire patienter les populations. Or, aujourd'hui, je crois qu'on arrive... On a une Union européenne qui pense que parce qu'elle a 75% plus ou moins de ses échanges commerciaux avec les Balkans, donc elle maîtrise les Balkans.
C'est un levier.
Ça lui suffit. Ouais. Elle pense que l'économie va suffire à faire le levier vers le politique. Or, le politique se contente très bien des systèmes des austérités, des politiques de privatisation. Ils ont renforcé leur réseau de clientélistes. Donc, on a aujourd'hui quand même une population qui est de 3,6% la population des Balkans, 3,6% de la population européenne. En fait, on est arrivé à un moment où il faut que l'Union européenne change de paradigme et ne se contente pas d'une approche économique sur le sujet, mais de véritables stratégies. C'était le but de la stratégie de l'Union européenne en 2018, c'est que les Balkans sont censés être devenus un investissement stratégique, géostratégique.
On va y venir à l'Union européenne. Encore un mot, Odile Perrot, sur cet héritage historique actuellement dans les Balkans.
Et héritage, c'est le mot est juste, et d'autant que finalement on célèbre aussi les 100 ans du traité de Versailles.
Ouais. Ça c'est important.
On sait que finalement la sortie de la Première Guerre mondiale, où déjà l'entrée avait eu un impact dans les Balkans, enfin été créée. Et puis ensuite, aujourd'hui peut-être encore, on se pose des questions sur, par exemple, la délimitation des frontières. Héritage, certes, on a parlé des accords de Dayton. Peut-être qu'on peut quand même, comme on a souligné l'importance de la paix dans les Balkans aussi depuis 20 ans, c'est la réflexion qui a été faite au niveau du Kosovo, malgré tous les débats qui ont été faits. Il ne faut pas oublier qu'au Kosovo, justement, on a abordé le conflit et la fin du conflit différemment de la Bosnie. On a essayé de mettre en place ce qu'on a appelé un processus de peace building, donc beaucoup plus la construction d'institutions démocratiques qui étaient provisoires à l'époque, plutôt que simplement arrêter le conflit. Il est vrai que pour la Bosnie, la priorité, c'était la stabilisation. Au Kosovo, on a encore cette réponse ad hoc qui est en fait marquée par la nécessité de la stabilité. Et d'ailleurs, l'Union européenne parle toujours de l'importance d'exporter la stabilité dans les Balkans. Mais au Kosovo, on a essayé de réfléchir en des termes différents, avec une mission qui avait des pouvoirs étendus. On a construit des institutions. Au niveau économique, il est vrai qu'il y a encore beaucoup de difficultés. Mais on a, même si ce n'est pas 100% réussi, tenté quelque chose de monter en gamme, en quelque sorte, ou de monter en puissance pour reconstruire un pays et une démocratie.
Jean-Arnaud Desreins, je reviens à ce que vous dites, au constat que vous avez dressé il y a quelques instants et à cette expression « pays illusoire des Balkans ». Est-ce qu'aujourd'hui, pour reprendre la question posée dans cette émission, est-ce que la région, les Balkans, sont encore une poudrière aujourd'hui, potentiellement évidemment,
Plusieurs choses. Tout d'abord, ce mot de stabilité, à un moment, il faut quand même l'interroger, ce concept. Prenez la Bosnie-Herzégovine. Vous avez les mêmes brigands nationalistes qui étaient au pouvoir avant la guerre, durant la guerre, après la guerre, et qui sont toujours là. Il n'y a pas de pays plus stable que la Bosnie-Herzégovine, dans toute l'Europe. Quel pays en Europe a les mêmes dirigeants depuis 30 ans? La Bosnie-Herzégovine, c'est donc un modèle de stabilité. Cette exportation de la stabilité, elle s'est donc parfaitement faite. Je suis peut-être cynique, mais il y a un moment, il faut quand même...
Vous faites sourire sur le camarade sens des mots. Dans le studio.
sur le sens des mots. C'est une stabilité, dans le cas de la Bosnie, qui s'apparente d'ailleurs plutôt à la rigueur cadavérisme. Enfin bon, sur la notion de poudrière, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. D'une part, pour commencer, je suis d'accord avec ce que disait mon ami Sébastien Gricourt. La reprise de conflit n'est pas du tout à l'ordre du jour, pour une raison très simple, c'est que les jeunes s'en vont. Donc vous pouvez avoir des vieux dirigeants nationalistes, vieux ou plus ou moins vieux d'ailleurs, qui tiennent tous les discours patriotiques que vous voulez, pour aller faire la guerre, il faut des jeunes. Mais les jeunes, ils sont plombiers ou électriciens en Allemagne. Donc ces gens-là ne feront pas la guerre. Et des pays qui se vident ne peuvent pas faire la guerre. Donc là encore, excusez-moi d'être peut-être cynique, mais je ne pense que pour des raisons démographiques évidentes, il n'y aura pas effectivement de nouveaux conflits. C'est quelque part tout de même une bonne chose. Je pense surtout que les Balkans, c'est beaucoup moins une poudrière qu'un révélateur des contradictions de l'Europe. Et cela depuis extrêmement longtemps. Les Balkans, c'est une périphérie des zones d'influence des grandes puissances du moment. Alors aujourd'hui, l'Union européenne, la Chine, qui est de plus en plus présente, la Turquie, un petit peu, mais beaucoup moins, même si on joue à se faire peur avec elle, la Russie, les États-Unis, qui ont aussi leur agenda politique, qui n'est pas forcément toujours celui de l'Union européenne. Il y a 106 ans, en 1913-1914, les grandes puissances portaient des noms un petit peu différents. Il y avait l'Empire des Habsbourg, l'Empire allemand, mais il y avait aussi toujours la France, la Russie et l'Empire ottoman sur le déclin. La tragédie des Balkans, c'est d'être à la croisée de ses intérêts et d'être, je dirais, un miroir, peut-être aussi un miroir déformant. Vous savez, ces miroirs qui agrossit, qui grossit, une sorte de loupe des contradictions et des intérêts contradictoires de ces grandes puissances. Et cela, tous les peuples des Balkans le payent très très cher depuis fort longtemps. Le mécanisme, vous savez, il y a un mot que j'aime pas, vous l'avez compris, c'est celui de stabilité. Il y a un autre mot que j'aborde et dont on a beaucoup abusé à propos du Kosovo, c'est celui des amis. Les Européens, les États-Unis n'ont pas cessé de répéter qu'ils étaient les amis des Kosovars. Ce terme d'amitié, en réalité, il faut le comprendre dans un sens mafieux. C'est celui du protecteur à ceux qu'il va protéger. Mais ce genre de protection, au bout du compte, les protégés le payent toujours extrêmement cher parce qu'ils se trouvent pris, broyés dans ces intérêts contradictoires. Mmh. C'est ce que l'on a vu en 1914 et c'est... Toutes choses étant différentes par ailleurs, une situation qui perdure encore aujourd'hui. Je ne pense pas que les Balkans vont ni sombrer dans la guerre, ni encore moins entraîner l'Europe dans la guerre. Je pense que s'intéresser aux Balkans est par contre très intéressant pour comprendre les contradictions qui travaillent toute l'Europe.
Mmh. Sébastien Grigourd.
Oui, pour compléter les propos de Jean Arnaud... Il a cité plusieurs puissances étrangères qui investissent dans les Balkans. On a tendance parfois beaucoup à grossir le trait d'ailleurs pour entretenir cette image qu'il faut à tout prix stabiliser les Balkans parce qu'il y aurait danger pour l'Union européenne. Il est vrai que la nouvelle stratégie d'élargissement de l'Union européenne en début de l'année 2018 évoquait le fait que c'est décidément maintenant, c'est un investissement géostratégique d'investir dans les Balkans. Parce qu'en 2014, Juncker avait dit à l'époque il n'y aura pas d'élargissement dans un futur assez lointain. Et puis tout à coup, ils ont réalisé que la Russie, la Chine, la Turquie et les Émirats Arabes Unis investissent.
Une déclaration de Jean-Claude Juncker pour aller dans votre sens. Hein, il ne peut y avoir plus de stabilité. On sait maintenant que Jean-Arnaud Derrinse n'aime pas trop ce mot-là, mais bref, plus de stabilité dans le voisinage de l'Union européenne sans une perspective d'élargissement crédible. Jean-Claude Juncker en 2017, repris par la Commission européenne en février 2018. On sent là, et c'est pour aller dans votre sens, voilà. Sébastien Grigourd, qu'il y a un enjeu stratégique.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est par rapport, sans rentrer dans le détail de ce que font exactement la Russie, la Chine, la Turquie, les Émirats Arabes Unis. La réalité, d'abord, c'est que, un, toute la région, ces 6 États des Balkans, ne s'éloignent pas du tout de leurs ambitions d'intégration au sein de l'Union européenne ou au sein de l'OTAN, ça reste l'agenda principal. Deux, que ces pays Russie, Turquie, Chine et même Émirats Arabes Unis, ils ne proposent aucune alternative à l'intégration à l'Union européenne et l'OTAN. D'ailleurs, ils ne sont pas tous à s'opposer à tout prix à ce que ces États intègrent l'Union européenne ou l'OTAN. Ensuite, ces quatre États, je mentionne que ces quatre, mais ces quatre États ont des contradictions entre eux. Il n'y a pas d'agenda partagé, coordonné entre la Russie et la Turquie, par exemple, alors que la Turquie reconnaît l'indépendance du Kosovo et pas la Russie, alors que la Turquie soutient la Bosnie-Herzégovine, mais ce n'est pas le cas de la Russie qui veut disloquer la Bosnie-Herzégovine. Ensuite, il y a par contre, parmi ces quatre pays, des pratiques mafieuses qui font qu'ils entretiennent les fameux leaders dont a parlé Jean Arnaud, et qui sont pratiques parce qu'ils ont des pratiques financières, d'appels d'offres, etc., qui font que ça entretient les réseaux clientélistes, et que enfin c'est finalement un danger, par contre, pour la pratique de l'état de droit que veut exporter l'Union européenne. Donc, en même temps, donc, il faut quand même modérer cette affaire d'acteurs extérieurs. Je pense que c'est plutôt un message pour l'Union européenne. Oui, c'est un investissement tout à fait géostratégique. Il est temps en vérité que l'Union européenne change de paradigme. Quand on a du coup le président français Macron l'année dernière, qui parce qu'il avait peur des élections européennes de cette année, sort au Conseil européen, donc il n'y aura pas d'élargissement tout de suite. Donc on va les dates d'ouverture des négociations avec l'Albanie et la Macédoine, qui étaient bien partis à l'époque, on repousse ça à juin 2019. Sauf que finalement, ils viennent nous parler d'approfondissement de l'Union européenne avant l'élargissement. Il ne fait que revenir à un vieux débat qui était déjà dépassé depuis très longtemps, depuis 2004, et même d'ailleurs à l'origine de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Il n'y a aucun lien entre la question de l'élargissement et des blocages institutionnels au sein de l'Union européenne. C'est faux. Il est est temps en fait d'investir stratégiquement, et je crois que c'est la solidarité qui manque l'Union européenne, et on le sait sur plein de chapitres, mais elle manque aussi dans l'approche vis-à-vis des Balkans.
Pour compléter ce que vous dites, Sébastien Héricourt, vous parliez d'Emmanuel Macron, on va l'écouter, le président français. C'était l'an dernier, en juillet 2018, il recevait le président serbe dont on a déjà parlé, Aleksandar Vučić. C'était à l'Elysée, les deux hommes ont tenu une conférence de presse. Alors, effectivement, l'objectif, c'était 2025, hein, en tout cas c'est l'année citée par le président Macron, pour que la Serbie entre éventuellement dans l'Union européenne. Voici, pour vous rafraîchir la mémoire, ce que disait donc Emmanuel Macron et ensuite le président serbe à l'Elysée.
Bien, mesdames, dans le dialogue que nous avons avec la Serbie, je pense que c'est beaucoup plus la capacité de traiter les éléments de fond que nous nous sommes donnés, de répondre aux questions en vérité, que de cocher des cases avec une date et en disant en 2025 on rentre forcément. Si en 2025 tout est fait conformément à ce qui a été prévu, oui. Si ça n'est pas fait, je pense qu'il ne faut pas avoir d'ambiguïté entre nous. Si c'est fait plus vite et que les choses vont encore mieux, les perspectives peuvent même être différentes.
Même si, à cet instant, le président Macron disait « Nous vous laissons entrer demain dans l'Union européenne », ils ne le feront pas avant que nous ayons réglé la question des relations entre Belgrade et Pristina. Ils ne nous laisseront pas entrer avant que nous ayons terminé de réformer notre système judiciaire, la primauté du droit, entre autres. Avant toute chose, pour que quelqu'un considère notre adhésion, nous devons régler nos problèmes.
Nous devons régler nos problèmes, nous avons du travail, dit en substance le président serbe, disait le président serbe l'an dernier. Est-ce qu'il est sincère, selon vous, Odile Perrot, quand il dit ça?
Si vous me demandez de parler de la sincérité des hommes politiques, j'avais coupé le micro. En fait, je voulais juste revenir sur la question de 2025 qui, en fait, a été mise en avant dans la stratégie d'élargissement de l'Union européenne l'année dernière. Donc, et qui a été quand même précisée comme une perspective éventuelle et juste à titre purement indicatif. Donc, cette date, en effet, fait un peu oublier, comme disait Sébastien Héricourt, la fameuse remarque de Jean-Claude Juncker. Mais cette date, disons, sert un petit peu de repère comme un jalon. Et comme on discutait juste auparavant de la position de la région prise en tenaille entre les aspirations des différentes puissances, peut-être que c'est intéressant de justement faire la comparaison avec le contexte d'il y a 20 ans, en 99 et aujourd'hui. Il y a 20 ans, on avait un contexte où le multilatéralisme était quand même quelque chose de soutenu par l'ensemble de ces fameuses grandes puissances. Un conseil de sécurité qui n'était plus paralysé, qui sortait de la guerre froide et qui était prêt à, en fait, se mettre d'accord et à, justement, avancer sur la voie de la paix et de la reconstruction dans les Balkans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez un conseil de sécurité qui est beaucoup plus divisé. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que l'on attend beaucoup de ce qu'on appelle le soft power de l'Union européenne. Et on peut revenir à la question de la Macédoine du Nord, qui a réglé avec la Grèce la fameuse querelle du nom, qui elle aussi avait quelques décennies. Et on attend beaucoup du Conseil européen d'octobre pour envoyer un message positif à ceux qui ont fait un effort.
La Macédoine du Nord qui est candidate à l'adhésion, à l'entrée dans l'Union européenne depuis 2005. Hein, donc ça fait quand même quelques années maintenant. Jean-Arnaud Deyrens, le chef de l'État, on l'a entendu il y a quelques instants, Emmanuel Macron était ouvert officiellement à toutes les possibilités en juillet 2018. On a bien compris son discours très ouvert après ce que viennent de nous dire Odile Perrot et surtout Sébastien Héricourt. Aujourd'hui, quelle est la position du chef de l'État?
Écoutez, il faudrait lui demander. On en saura peut-être plus quand il viendra à Belgrade.
Donc la semaine prochaine. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.
De prétendre parler au nom de Monsieur Macron. Je dirais juste deux choses. Il est clair qu'il y a une contradiction évidente entre le discours de Monsieur Macron, qui a été élu quand même président de la République sur un discours pro-européen, et qui, depuis son élection, est celui qui fait preuve de plus de fermeture au pays des Balkans occidentaux. C'était le cas notamment après la conclusion de l'accord sur le nom de la Macédoine avec la Grèce. Donc là, il y a une contradiction majeure. On avait quand même également, il n'y a pas très longtemps, aux élections européennes, une candidate, Madame Loiseau, qui se faisait fort de s'être opposée à l'ouverture d'une négociations avec l'Albanie et la Macédoine, alors que quelques semaines avant d'être candidate, cette même Madame Loiseau, en sa qualité de ministre des Affaires européennes, assurait à l'Albanie et à la Macédoine que la France les soutenait. Donc il y a quand même une contradiction qu'il faut relever à un moment ou l'autre. Le second point, c'est que, notamment durant ce moment très particulier de ce déjeuner à l'Élysée au mois de juillet dernier entre Emmanuel Macron et Aleksandar Vučić, on parlait beaucoup de la possibilité d'un accord final sur le Kosovo qui aurait passé par une redéfinition des frontières entre le Kosovo et la Serbie. Je crois que c'est une sorte de, comment dire, c'est une idée extrêmement dangereuse qui a été avancée par quelques apprentis sorciers pas forcément français, plutôt américain, mais également français, il y en a eu, je crois, qui pose beaucoup de problèmes, parce que cet accord aurait remis en question le seul principe auquel on se tient malgré tout depuis quelques décennies, qui est celui de l'intangibilité des frontières. Alors, pour être clair par rapport aux auditeurs, la base de tout, c'est le règlement, ce qu'on appelle le règlement Badinter en 1991, qui dit qu'on peut reconnaître l'indépendance d'anciennes républiques fédérées de fédérations, c'est le cas de la Yougoslavie, ou c'était le cas de l'URSS ou de la Tchécoslovaquie, mais qu'ensuite, on ne touche pas au tracé de ces frontières, même si éventuellement ce tracé peut être contestable ou contesté. Il y a ensuite le cas particulier du Kosovo qui n'avait pas le statut de république fédérée, mais enfin, on a estimé que c'était un cas particulier, ce qui peut-être a été critiquable, mais enfin, en tout cas, même dans le cas du Kosovo, on n'a pas touché à ses frontières. Ouvrir la question des frontières, cela voudrait dire remettre en cause toutes les frontières, non seulement de la région, mais de l'Europe elle-même. Ça ne se limiterait pas aux Balkans. Le pays le plus directement menacé étant bien évidemment la Bosnie-Herzégovine, mais elle ne serait pas la seule à être menacée dans ce cas de figure. Je crois néanmoins que cette fausse bonne idée d'un accord final, et il y a déjà quelques prétentions dans cette l'idée même d'accord final, rien n'est jamais définitif en ce bas monde. Mais enfin, dans cette très, très mauvaise, fausse bonne idée, il y avait, voilà, cette conviction, je pense, dans certains milieux diplomatiques à l'été dernier, que cet accord était possible. Et je crois qu'Emmanuel Macron a misé sur cette hypothèse-là. Non pas qu'il s'intéresse beaucoup aux Balkans. Les Balkans ne sont clairement pas une priorité de la politique française. Le dire ne revient à insulter personne. Tout le monde le sait très très bien. Même le ministre des Affaires étrangères a d'autres priorités. Tout le monde le sait parfaitement bien. Mais enfin, il y a eu cette idée que peut-être la France pourrait jouer un rôle particulier dans ce deal, dans cet accord historique qui, pour le coup, aujourd'hui n'est plus du tout à l'ordre du jour, qui s'est complètement évanoui pour des raisons très simples. C'est que d'une part, certains pays s'y sont catégoriquement opposés, notamment l'Allemagne. Et aujourd'hui, ça c'est un élément nouveau, il y a aujourd'hui deux lignes politiques tout à fait opposées à propos des Balkans, c'est la ligne allemande et la ligne française. Il n'y a plus aucune espèce de consensus franco-allemand sur la question des Balkans, c'est important de le rappeler. Et puis, cet accord a aussi échoué parce que les opinions y étaient très hostiles, notamment au Kosovo, où le président de la République, Hashim Thaçi, doit de fait tenir compte aussi d'un parlement qui est tout à fait hostile à l'idée d'un redécoupage, d'une redéfinition des frontières. Donc cet accord n'est plus sur la table. Du coup, bah, pour le coup, je ne sais pas exactement de quoi Emmanuel Macron va pouvoir parler lors de son voyage à Belgrade. On l'apprendra, on en saura plus la semaine prochaine. Il y aura bien sûr des contrats économiques, on en trouve toujours quelques-uns, toujours forcément, même si le contrat du métro que la France doit construire à Belgrade depuis à peu près 40 ans, je crois que déjà le général de Gaulle en parlait, est en train d'être raflé par les Chinois. Mais enfin bon, on verra. C'est un détail.
Il nous reste 5 grosses minutes. Sébastien Héricourt, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Jean-Marc?
Oui, je vais pas rajouter là-dessus. Je pense qu'effectivement, la France a manqué d'intuition et de compréhension de la région pour véritablement marquer le coup et avoir un leadership dans la région. Ce qui fait que comme situation, effectivement, il n'y aura pas de sommet kosovaro-serbe à Paris avec un accord au bout de la ligne. Donc, il va falloir attendre la future Commission européenne.
Et c'est l'une des conditions à l'entrée éventuelle de la Serbie dans l'Europe.
Oui, c'est aussi lié, mais beaucoup de choses sont liées à cela. Et par contre, on a une nouvelle difficulté maintenant dans la nouvelle configuration. C'est qu'on va avoir un haut représentant et vice-président de la Commission qui est espagnol. L'Espagne fait partie des 5 pays qui s'opposent à la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. La Serbie se réjouit d'avance. Moi, je dis que peut-être c'est une chance au contraire pour l'Espagne d'œuvrer à une position unifiée sur le Kosovo, ce qui permettra au Kosovo de vraiment être ancré à l'Union européenne et d'ancrer vraiment toute la région. Donc je pense que l'Espagne a là une chance historique de dépasser ses réticences. On a un Catalan qui est contre l'indépendance de la Catalogne à la tête du service d'action extérieure européen.
Josep Borrell, je rappelle.
Josep Borrell, tout à fait. Ensuite, on a un deuxième sujet, c'est cette opposition à vouloir repousser la date d'ouverture des négociations avec l'Albanie et la Macédoine. Je rappelle pour l'Albanie, ils ont réussi leur réforme. La Commission européenne reconnaît que c'est un bon progrès. Donc on pourrait dépasser la crise politique. Par contre, par rapport à la Macédoine,
vous croyez vraiment qu'on pourrait dépasser la crise politique?
Non, mais en fait, la question, c'est que on noie le débat en parlant d'élargissement, alors qu'on devrait juste parler du débat d'ouverture d'un processus qui peut prendre 10 ou 20 ans. En fait, c'est ça le sujet. Et peut-être qu'au lieu de parler d'élargissement, on aurait parlé de rapprochement uniquement. Et ça, peut-être, ça serait plus simple pour tout le monde parce qu'on a un problème. D'abord, la Macédoine du Nord a maintenant une nouvelle problématique, c'est que Alexis Tsipras n'est plus au pouvoir. Donc, la droite grecque peut s'opposer en octobre. Malgré les assurances qu'elle ne le fera pas, elle peut le faire, donc s'opposer finalement à l'ouverture des négociations. Ensuite, on a un sujet entre l'Albanie et la Macédoine, c'est que la Macédoine ne serait pas arrivée à faire son accord sur le nom avec la Grèce si la minorité albanaise, qui est incontournable, n'avait pas donné son appui. Donc en réalité, les sociodémocrates actuellement au pouvoir le doivent aussi aux Albanais avec qui ils sont en coalition. Donc il y a ce sujet quand même qui se pose sur l'avenir de la Macédoine, même si pour l'instant je veux rester rassuré par rapport à cette bonne nouvelle de la Macédoine. Donc clairement, on a, et plus largement, on a le sujet de la propagande, de tout ce vide européen dans les Balkans, le fait que c'est complètement exploité aujourd'hui par les propos de l'extrême droite et même d'une partie de la droite française, hein, qui ne fait que relier ce que balancent les Russes qui sont bien installés dans la désinformation, et Jean Arnoux en sait quelque chose, il a tenu une conférence là-dessus récemment. On a quand même des élus de la République française qui ont sorti des énormités entre mai et juin. Je ne parle pas que de Marine Le Pen qui fait des questions au gouvernement, mais de Zemmour aussi qui sort des choses sur la théorie du grand remplacement, etc. De Valérie Boyer, de LR, et même de Jean-Christophe Lagarde du UDI qui s'est fendu d'un communiqué complètement stupide sur le Kosovo. Donc voilà, on a comme problème, c'est qu'il est temps de reprendre les choses en main avant de le laisser à d'autres dans les Balkans.
Odile Perron.
Je vais essayer de dire deux, trois mots peut-être sur la question des frontières, en effet, qui est un problème plus large au niveau des Balkans. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est de noter que si ça posait un souci dans le cadre du dialogue Kosovo-Serbie, c'est parce qu'il ne s'agissait pas seulement de modifier les frontières, mais de tenter d'homogénéiser finalement les populations, enfin les territoires par rapport à leur composition dite ethnique, comme si on avait des compositions 100% d'une communauté ou d'une autre, et les frontières. Et c'est là que se posait le souci, parce que vous pouvez redessiner des frontières, mais ça s'est passé justement après chaque guerre mondiale. Les populations, elles, après, vont devoir bouger. Et en parallèle, on a cru à une possibilité de... D'ailleurs, c'est quelque chose qui avait été mentionné bien avant, même par des représentants internationaux. Ça frise l'effet de manche, en quelque sorte. Mais on a cru à cette possibilité parce qu'on attend, en effet, dans le cadre de la stratégie d'élargissement, ce que la Commission a appelé un accord juridiquement contraignant et un accord de normalisation globale. Donc, on attend cet accord qui devrait sortir du dialogue Kosovo-Serbie et qui peine à arriver pour que la situation pour l'ensemble des Balkans occidentaux se débloque.
Il nous reste 2 minutes. On l'a compris, le processus d'adhésion est freiné à l'initiative de quelques pays européens, la France, l'Allemagne, on l'a dit. Est-ce que c'est une erreur selon vous, Jean-Arnaud Desrains? Rapidement, il nous reste encore une fois à peine 2 minutes.
Une erreur quoi, de freiner ce processus?
De freiner ce processus d'adhésion.
Je pense que malheureusement, il y a depuis longtemps une politique qui n'a pas été la bonne. On s'en rend compte a posteriori. Il aurait été ce qu'il aurait fallu faire a priori, c'était dès la fin des conflits, à la fin des années 90, au début des années 2000, c'était proposer une feuille de route commune pour l'ensemble des pays de la région, avec des moyens financiers très importants pour assurer la reconstruction, l'assurance d'une intégration rapide et groupée, et de véritables exigences en termes de démocratisation, de construction de l'état de droit. Le logiciel choisi était totalement différent, notamment en différenciant chaque pays, et clairement ce logiciel n'a pas marché.
Alors, contrairement à ce qu'ont vécu les pays de l'Est.
Exactement. Alors, est-ce que l'on peut rattraper les choses? C'est ça la bonne question, pour ne pas terminer sur une note trop pessimiste. Je pense bien sûr que oui, mais aujourd'hui, il est clair que l'initiative ne peut venir que des deux côtés en même temps. Il faudrait que l'Union européenne parvienne à retrouver un dynamisme politique qui la rendrait à nouveau crédible. Et il faut aussi que dans tous les pays des Balkans émergent des alternatives politiques qui sont en train de se construire difficilement en tâtonnant, même si trop souvent les acteurs de ce renouveau des Balkans sont les premiers à être obligés de prendre la route et de partir pour aller travailler dans les McDonald's de Düsseldorf ou de Munich.
On voit la situation bien complexe et le cercle pas forcément vertueux que vivent actuellement les pays des Balkans. 30 secondes pour terminer, Odile Perron.
Oui, juste une note optimiste, comme le précisait Jean-Arnaud Desrains, c'est vrai que c'est important de terminer. Je dirais que même si les Balkans occidentaux ne font pas partie de l'Union européenne, j'engagerai les auditeurs, si je puis me permettre, à aller les visiter, puisqu'ils peuvent y aller sans visa. Et ce sont vraiment des pays très agréables. Ils verront que la paix n'est pas seulement illusoire.
Et qu'on peut utiliser l'euro, je crois, au Monténégro.
Au Kosovo.
Voilà, ça peut aider en tout cas pour ceux qui veulent aller voir ces beaux pays. Voilà. Malgré ce qui peut s'y passer de dur ces derniers temps. Merci à tous les trois, les Balkans révélateurs des contradictions de l'Europe plus que poudrières. C'est ce qu'on retiendra notamment de ce débat et de cette discussion. Merci donc à Jean-Arnaud Derrins, rédacteur en chef du courrier Les Balkans en duplex de Quimper. Merci à nos amis de France Bleu Armorique, Odile Perrault, chercheur associé au centre Montesquieu à Bordeaux, consul honoraire du Kosovo. Et merci à vous Sébastien Gricourt, directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Elodie Piel, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation ce soir, Thomas Jost, mise en onde, Cindy Legrumelec. Bonne soirée, restez avec nous sur France Culture dans une minute, matière à penser.